Les températures entre 0 et 4 degrés ce matin, entre 6 et 10 cet après-midi, avec un faible vent du sud-ouest sur le plateau. Il va aussi faire très doux en montagne. Mercredi 18 décembre, bienvenue, il est 7h.
RTS Info, la matinale.
Excellent début de journée à vous à la une ce matin. Alan Roura en direct avec nous dans cette matinale. Le navigateur suisse est en plein Vendée Globe. Cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. On l'appellera juste après le journal. Alan Roura qui est à 1000 km au sud de l'Australie. Un peu de répit pour lui après deux semaines à pas moins de 25 nœuds de vent depuis le cap de Bonne-Espérance. Bonjour Frédéric Mameis.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Les titres.
Une course de Noël, la course vers un accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne se pourrait être dans les prochains jours. Nous sommes à Bruxelles dans un instant où les Européens sont plutôt optimistes. Dernière touche pour le budget de la Confédération, mais la gauche semble avoir déjà perdu des plumes. Et dans ce journal, on l'aime chablaisien, mais c'est son passeport canadien qui va peut-être propulser sa carrière. Le basketteur Keyshawn George, troisième Suisse de NBA, veut déjà quitter les États-Unis. Et enfin, la balade à deux ailes, celle de Limonov, c'est au cinéma dès aujourd'hui. Anne Fournier l'a déjà vu pour vous.
Notre invité à 7h30 viendra à casser quelques clichés. Non, la génération Z n'est pas que rivée sur les écrans, individualiste, démotivée ou angoissée. Apolline Humblot en est la preuve. Cette jeune femme de 18 ans vient de décrocher un prix dans le domaine de la tech en créant une application pour combattre l'éco-anxiété.
Et si c'était une question de jours ou même d'heures, les négociations bilatérales avancent à grands pas entre la Suisse et l'Union européenne. Selon nos confrères alémaniques, l'accord à venir pourrait être saucissonné en quatre paquets séparés afin de les présenter au peuple lors de quatre votations distinctes. À Bruxelles, le commissaire européen chargé des négociations, Maros Sefcovic, a présenté aux 27 ministres des Affaires étrangères le contenu des discussions. L'ambiance est plutôt à l'optimisme chez les Européens quant à la possibilité donc d'un accord avec la Suisse. À Bruxelles, Pierre Benazet.
De manière officielle, certains se disent, je cite, très optimistes, comme la ministre allemande des Affaires européennes, alors que le ministre belge des Affaires étrangères évoque, je cite, un accord historique à portée de la main. Mais on peut véritablement parler d'un optimisme prudent à Bruxelles, car l'Union européenne avait été échaudée en mai 2021, lorsque le Conseil fédéral avait décidé de ne pas signer le précédent projet d'accord après des années de négociations. Résultat, tout le monde ici répète qu'il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Et on sait que ce qui coince, c'est l'argent que la Suisse devrait mettre chaque année dans ce que l'UE appelle la politique de cohésion, celle qui est destinée à aider les pays de l'Est à se rapprocher du niveau de vie de l'Ouest. C'est donc la dernière ligne droite, et officieusement, un diplomate affirme que cet accord représente, je cite, « un équilibre délicat ». C'est dire si les Européens y croient, mais ils retiennent leur souffle en attendant la décision du Conseil fédéral qui devrait intervenir vendredi. Pierre Benazet, RTS, à Bruxelles.
En apnée jusqu'à vendredi, donc lorsque le Conseil fédéral pourrait annoncer non pas la bûche mais le salami de Noël, autrement dit faire voter le peuple non pas une mais quatre fois sur le nouveau paquet d'accords bilatéraux avec l'Union européenne. Révélation de nos collègues de SRF hier soir, cette décision n'est pas du goût des eurosceptiques, à l'instar du conseiller national UDC fribourgeois Pierre-André Page.
Les Suisses allemands, ils appellent ça la salami tactique. Hein. C'est vraiment d'arriver avec des tranches et de faire voter la population pour essayer de faire passer le dossier. Et nous, on a toujours été clair, on veut faire une votation populaire avec le dossier sur l'Union européenne et non pas quelques aspects les uns après les autres pour tenter de décourager la population à voter finalement. Quatre objets de votation, cela veut dire quatre référendums, cela veut dire quatre fois chercher des signatures. Cela signifie beaucoup de travail pour nous. Et puis ça, je pense que le Conseil fédéral essaye de nous décourager. Je suis très déçu de cette manœuvre.
Pierre-André Page avec Marielle Savoie, dernière ligne droite aussi. Mais pour le budget 2025 de la Confédération, après trois allers-retours, les deux chambres sont toujours divisées, notamment sur les coupes dans l'aide au développement. Le dossier va donc se régler en conférence de conciliation cet après-midi. Mais on peut déjà parler d'une victoire pour le centre droit, Mathieu Anderson.
530 millions de francs supplémentaires pour l'armée, maintien du niveau des paiements directs pour les paysans. Ces deux décisions ont déjà passé la rampe des deux chambres fédérales et signent la victoire de la droite appuyée par le centre. Au grand dam de la gauche, qui se prépare à avaler d'autres couleuvres, car pour compenser la hausse du budget militaire, le camp bourgeois espère sabrer un maximum dans l'aide au développement. Le montant exact doit être fixé cet après-midi en conférence de conciliation. Quoi qu'il en soit, ces coupes pourraient atteindre entre 100 et 125 millions de francs, bien plus que le projet défendu au départ par le Conseil des États. De quoi laisser un goût amer dans le camp rose-vert. On s'est fait complètement avoir, lâchent plusieurs élus résignés. Une pilule d'autant plus difficile à avaler que le droit de référendum ne s'applique pas dans le cadre des discussions autour du budget. De la frustration donc, mais aussi une part de soulagement, y compris à gauche, de voir que la Suisse aura réussi à voter un budget pour l'an prochain, contrairement à certains de ses voisins, comme la France ou l'Allemagne.
Mathieu Anderson, au Palais fédéral. En bref, première nuit de couvre-feu dans l'archipel français de Mayotte, dans l'océan Indien, pour éviter les pillages. Le passage du cyclone Chido a fait des dégâts. Évidemment, le président Emmanuel Macron est attendu sur place demain. Son premier ministre, François Bayrou, s'y rendra dès qu'il aura formé son gouvernement. Mayotte, 320 000 habitants, voit la situation sanitaire se dégrader. Les morts pourraient se compter par milliers. Près de 200 membres de la Croix-Rouge seraient parmi les victimes.
Direction la Syrie maintenant, dans la ville côtière de Tartous.
Seul point d'accès direct des Russes à la Méditerranée. La Russie occupait massivement la Syrie depuis 10 ans pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Mais depuis la prise de pouvoir par les rebelles islamistes, il y a une dizaine de jours, les soldats russes font leurs valises. Reportage donc à Tartous de nos envoyés spéciaux Céline Martelet et Noé Pignade.
Sur la route en direction de Tartous, les véhicules militaires et les canons d'artillerie filent à toute allure. Depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier, le Kremlin replie son armée sur la côte syrienne. Debout sur la plage, Ali pointe du doigt une frégate grise qui s'éloigne vers le large.
Regarde, c'est un petit bateau militaire russe. Il y a encore une semaine, il y en avait plein, des beaucoup plus gros. Mais maintenant, il n'y a plus que lui. Et c'est peut-être le dernier.
Maybe it's the last one. Maybe.
En 2015, l'armée de Poutine s'est massivement déployée dans toute la Syrie pour soutenir le régime Assad. Tartous est alors devenu un point stratégique pour Moscou, son unique port en Méditerranée. Les soldats russes faisaient partie du quotidien.
Ils venaient en ville faire leur shopping et boire de la vodka, ici, sur le port. Ils étaient carrés et chauves, des militaires, quoi. Ils ne nous adressaient pas la parole, et nous non plus.
They don't talk with us and we don't talk with them.
Deux drapeaux russes flottent toujours à l'entrée de la base navale gardée par des soldats, mais pour combien de temps? Le moins possible, espère Ali.
Personne ne nous a demandé notre avis quand ils ont débarqué. Maintenant, moi je suis heureux s'ils s'en vont. Comme les Iraniens, les Turcs et les Américains. Tout le monde doit partir, il ne doit rester que les Syriens.
En coulisses, le Kremlin tente de négocier avec ses ennemis d'hier pour conserver sa base militaire. Pas sûr que les rebelles bombardés massivement par les Russes pendant des années tolèrent longtemps leur présence.
Le reportage signé Céline Martelet, Noé Pignade est le chef militaire du groupe radical Ayad Tahrir al-Sham à la tête de la nouvelle coalition au pouvoir a annoncé hier la future dissolution des groupes armés. Ils vont être intégrés dans l'armée syrienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, appelle à un processus politique inclusif en Syrie. Cette information de la RTS à présent, les parents du jeune Portugais poignardé à mort par un djihadiste dans un kebab de Morges en septembre 2020 se retournent contre la Confédération. Les parents réclame 200 000 francs de dommages et intérêts. Pour eux, ce drame aurait pu être évité, Fabien Citroni.
Pour bien comprendre cette colère et cette démarche des parents, on doit revenir sur les semaines qui ont précédé le drame. Ce premier homicide à caractère djihadiste de Suisse, l'auteur, un turco-suisse, alors sous surveillance du ministère public de la Confédération, il a des règles très strictes à respecter, comme pointer une fois par semaine au poste de police de Morges, se rendre au travail, mais il ne le fait pas. La procureure fédérale qui gère son dossier est au courant, mais elle prend aucune sanction à son égard. Et quelques jours plus tard, le djihadiste assassine Joao dans un kebab. Pour les parents, la procureure a fait preuve de négligence dans cette affaire. Et c'est pour cette raison qu'il réclame 200 000 francs à la Confédération. Alors s'attaquer à la Suisse, c'est pas une première. Dans cette même affaire, la petite amie de Joao a elle aussi déjà demandé réparation pour les mêmes raisons. On verra ce que ça donne. On a contacté la procureure mise en cause, qui travaille d'ailleurs désormais pour les services secrets suisses, mais elle n'a pas souhaité commenter cette démarche. On a aussi contacté le ministère public de la Confédération, mais il n'a pas répondu à nos questions précises. Maintenant, la balle est dans le camp du département fédéral des finances. C'est à lui de prendre une décision après avoir entendu les uns et les autres. On sera fixé dans quelques mois.
Fabiano Citroni. Dans le canton de Vaud, toujours un impôt de un peu plus heureux pour les contribuables. Leur facture fiscale baissera de 7% d'ici 2027. Après plusieurs jours de débat, le Grand Conseil a validé hier cette réduction de l'impôt sur le revenu. 7%, c'est plus généreux que ce que proposait initialement le Conseil d'État. Objectif, contrer l'initiative dite des 12% lancée par les milieux économiques. Initiative soutenue ouvertement par un seul parti, l'UDC. Cédric Weissert, son chef de groupe au Grand Conseil.
On a toujours soutenu cette initiative dès le début, on est le seul parti d'avoir à l'avoir soutenu. On n'a pas changé d'avis là-dessus. Par contre, nous, on n'a pas de pouvoir sur ce que les milieux économiques vont faire avec cette initiative. Donc nous, on a œuvré, je dirais, dans le cadre de nos débats parlementaires pour aller plus loin, parce que 5% c'était pas assez, effectivement. Il faut aller plus loin. Avec 5%, on restait, à mon avis, le cancre des cantons suisses. Donc là, on a bougé un petit peu plus. Comme j'ai dit, il y a d'autres objets qui touchent la fiscalité qui sont également passés dans le cadre de ce débat budgétaire. Donc c'est une première étape. On verra la suite, mais je pense qu'il y a encore nécessité de faire quelque chose et de travailler sur les charges.
2025 sera une année encore douloureuse pour l'économie suisse. Pas de reprise en vue, le chômage augmente et la croissance qui flanche.
Aussi bien la Banque Nationale Suisse que le secrétariat d'État à l'économie assombrissent leurs prévisions pour l'an prochain. Comment expliquer ce pessimisme actuel? Les explications de Gero Jung, chef économiste à la Banque Mirabeau.
En fait, le coupable est vite trouvé, c'est la conjoncture mondiale. Plus particulièrement en Europe, les derniers chiffres économiques sont décevants. La zone euro a de la peine et surtout l'Allemagne qui souffre d'une faiblesse conjoncturelle assez forte. On a vu un PIB reculer l'année dernière. Le PIB allemand est censé de reculer également cette année. Autrement dit, l'Allemagne est en récession. Presque un cinquième des exportations suisses vont à l'Allemagne. Puisque l'Allemagne souffre, la Suisse fléchit.
Gero Jung a été interrogé par Nicolas Rosset. Il est devenu le troisième joueur suisse à évoluer dans la prestigieuse NBA, la Ligue nord-américaine de football, de basketball. Qu'est-ce qui va pas?
Non, mais je sais pas.
De basketball. Mais Keyshawn George jouera désormais pour le Canada, le pays de son père. Pourquoi le natif de Montaigne entré en NBA cet été seulement va-t-il déjà quitter les États-Unis? Explication avec Bernardin Alemann.
Actuellement touché à la cheville, Keyshawn George ne peut pas évoluer avec son club de Washington. Le fils de Deon George, ancien joueur de Boncourt et de Montée entre autres, en profite pour clarifier sa situation en sélection. Ce sera le Canada, pays de son père. La fédération suisse lucide ne s'en plaint pas outre mesure. Son secrétaire général Eric Lehmann.
On est déçu parce que Keyshawn, c'est un pur produit de la formation suisse, puisqu'il a été jusqu'à l'âge de 16 ans, en tout cas, dans les sélections cantonales valaisannes, avec son club de Montée. Mais d'un autre côté, on comprend tout à fait la situation, et finalement, on n'est pas peu fiers non plus, parce que l'enjeu sportif est très intéressant du côté canadien. Le projet sportif de pouvoir aller jouer les Jeux Olympiques, de pouvoir aller à la Coupe du Monde au Qatar en 2027. On ira peut-être à la Coupe du Monde au Qatar en 2027, mais pour l'instant, on est dans les préqualifications européennes, donc on est encore loin.
Un choix peut-être logique, mais réfléchi selon Keyshawn George lui-même, que nous avons joué hier soir.
C'est quelque chose que j'ai dû réfléchir. Ça n'a jamais été une décision d'une semaine. Même depuis que je suis tout petit, je savais que j'avais l'opportunité d'aller jouer pour l'équipe canadienne et que j'ai toujours mon frère qui joue avec l'équipe suisse. J'ai fait l'équipe suisse moi-même en U16 et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de fierté et que c'est pas forcément facile de se séparer juste d'une équipe nationale comme ça. C'est un peu une des raisons principales pourquoi j'ai envie d'y aller, c'est de pouvoir apprendre des meilleurs, de pouvoir intégrer ces Jeux Olympiques, ces Coupes du Monde que tout le monde regarde et puis que j'ai regardé aussi en tant qu'enfant.
La Suisse n'a par contre pas encore dit son dernier mot. Le basket est moins rigide que le football, par exemple, quant au règlement de nationalité. Et voir un jour Keyshawn George, tout juste 21 ans sous le maillot suisse, est encore de l'ordre du possible.
Un mot de hockey sur glace. Une équipe suisse disputera la finale de la Ligue des Champions le 18 février prochain. Il s'agira du vainqueur de la demi-finale entre Genève Servette et les Zurich Lions. Genève gagnante contre Bremerhaven et Zurich contre Berlin. Premier acte de la demi-finale entre les deux équipes suisses le 14 ou le 15 janvier à Genève. Et puis on termine ce journal, comme nous sommes mercredi, par une sortie au cinéma. Bonjour Anne Fournier.
Bonjour.
Ce matin, vous nous parlez de Limonov, la balade, film du metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, en compétition au Festival de Cannes, l'histoire d'un personnage russe aux mille visages.
Oui, Frédéric, petit avant-goût.
Is it true, Mr. Limonov, that there is only one thing you can write about, and that is yourself?
Madness is about to begin. Revolution is what we need.
À l'origine de ce film, il y a un roman, Limonov, signé Emmanuel Carrère. Et derrière ce livre, un homme, lui-même écrivain, Edouard Savenko, mort en 2000. Ce Russe, né en Ukraine, fut loubard, poète, majordome et politicien de tous les extrêmes. Une sorte de Joker du XXe siècle.
Come on, I'm destined to be someone else. The whole world will be at my feet.
I'm either getting famous or assassinated.
Durant 2 heures, Kirill Serebrennikov, aujourd'hui installé en Allemagne, trace la saga de ce dissident avec des allures de poète maudit. Une balade sur l'exil géographique et intellectuel. J'ai rencontré le cinéaste à Genève.
J'ai parfois l'impression que le pouvoir russe actuel a lu les essais les plus controversés et les plus violents de Limonov et qu'il a décidé de les appliquer à la réalité, dans la politique, dans la guerre avec l'Ukraine. Je ne parle pas de sa belle littérature, mais de textes ultérieurs dans lesquels il voulait surtout redorer le blason de mère Russie.
Cette complexité du personnage et du pays qui est le sien est peu présente dans le film et c'est ce qu'on peut regretter. Le cinéaste rétrécit son héros pour en faire d'abord un personnage rock. Reste malgré tout la magie d'un parcours rebelle de tous les superlatifs.
Merci Anne Fournier. Limonov, la balade, film de Kirill Serebrennikov, c'est à voir en salle dès aujourd'hui.
Merci beaucoup Frédéric Mamaïs pour votre journal. À 7h16, bonjour Pietro Bignon.
Bonjour.
Notre invité ce matin démonte plusieurs clichés sur la génération Z, ces jeunes nés après l'an 2000.
Ah, les jeunes, ils sont rivés sur leurs écrans, individualistes, démotivés par les études et le travail, angoissés par la marche du monde. Oui, je vous propose ce matin de casser certaines de ces idées reçues. Notre invité s'appelle Apolline Humblot, 18 ans, une jeune développeuse persuadée qu'on peut combattre l'éco-anxiété.
Et puis après Limonov, Anne Fournier, l'art en vrai, on parle d'intelligence artificielle dans votre chronique. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de chronique?
Pas de souci, je laisse l'IA à mes collègues du vendredi. Ce matin, la technologie sera en scène pour faire briller le théâtre et les jeunes. Suspense.
La matinale, Valérie Awert.
Un moment maintenant pour les amateurs de voile et plus largement un moment d'émotion pour tout le monde surtout. On file au Vendée Globe, célèbre course de voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. 10e édition, 3 Suisses y participent, Alain Roura, Justine Métro et Oliver Hare. Les concurrents ont rejoint les mers du Sud et le large de l'Australie. Et grâce au miracle des satellites, c'est très capricieux mais on va quand même tester. Nous sommes en direct en ligne avec vous Alain Roura ce matin, bonjour.
Mais bonjour, comment ça va?
Ah ben on va très très bien, mais c'est à vous qu'on demande. Comment ça va pour ce 3e Vendée Globe, 37e journée aujourd'hui?
Ouais, ben ça va. La nuit a été un peu sportive, compliquée, mais le moral est là, tout va bien. Je suis dans un petit groupe où on fonce, on va assez vite là en ce moment. On essaie de recoller le groupe de devant, donc c'est hyper intéressant et motivant. Donc jusqu'ici, tout va bien.
Vous êtes à 1000 km au sud de l'Australie avec des vents un peu moins violents que tous ces derniers jours où vous aviez, je crois, plus de 25 nœuds de vent tous les jours. Hein.
Ouais, exact. Là, c'est un peu plus calme. À l'heure actuelle, il y a 30 nœuds de vent encore, mais ça va se calmer dans la journée. Donc ça va faire du bien. Et puis on va arriver même dans une zone sans vent dans 2-3 jours là, donc ça va permettre de bricoler un petit peu sur le bateau et de potentiellement se reposer aussi un petit peu, ouais.
Comment se passe ce 3e Vendée Globe? C'est la 3e fois pour vous?
Et ben ça se passe. Je suis déçu de mon début de course, j'ai fait des choix qui étaient obligé à ne pas avoir d'être pas dans le bon wagon, on va dire. Mais là, je m'accroche, j'essaie de vraiment tout donner pour remonter. Et la route, elle est longue, donc voilà, je garde espoir, moral, je fonce. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce Vendée Globe-là. J'ai un super bateau, Hublot, il marche très bien. J'ai pas eu du moins que des petits, donc voilà, c'est un très beau Vendée Globe pour le moment. Et le placement, c'est pas celui espéré, mais la course, on n'est pas encore à la moitié, donc il peut se passer plein de choses.
Il reste encore un bout de course. Vous êtes 19e hein, pour l'instant. C'est pas le premier slot, mais quand même, vous avez fait la course en tête dans la deuxième volée, hein, si on peut le dire comme ça. Vous disiez, vous avez passé une nuit compliquée. Est-ce que vous avez réparé votre lit?
Ouais, le lit est réparé. Alors c'est bien d'avoir réparé le lit, mais faut-il encore réussir à dormir dedans?
Il s'était cassé, donc.
Ouais, il s'était cassé. Donc là, voilà, il va falloir que je répare quelque chose dans la grand voile. J'ai 2-3 petites bricoles, mais rien de dramatique.
À part le lit cassé, est-ce qu'il y a d'autres problèmes à gérer? On imagine peut-être un peu moins technique, un peu plus émotionnel ou psychologique. Les fêtes qui arrivent, vous allez les passer seul à bord, ça, on le sait, vous le savez aussi. Comment vous y êtes préparé? Comment vous appréhendez ça?
Bah écoutez, c'est mon 3e Noël sur le Vendée Globe, donc je commence à avoir un peu l'habitude. Et je le vis bien. C'est sûr que c'est difficile avec des enfants en bas âge de pas être là pour Noël, mais maintenant on a des moyens de communication qui nous permettent de pouvoir faire une visio par exemple, donc ça c'est cool. Et puis voilà, moi je suis pas très fête de fin d'année non plus, donc je suis bien tout seul sur mon bateau, mais
il y a des moyens un peu moins lointains pour les éviter hein, que de partir en Vendée. Là. Trêve de plaisanterie. Est-ce que vous êtes très seul, c'est en solitaire, on le sait. Est-ce que vous avez malgré tout quelques visites animales? Est-ce que vous voyez ou des cétacés ou des oiseaux? Est-ce que ça vous arrive?
Ouais, j'ai pas mal d'albatros autour du bateau, c'est des très très gros oiseaux magnifiques, vraiment très élégants. Et après, ce qui va être faune maritime, je vois pas grand chose moi parce que je suis dans un bateau qui est très fermé. Je vois très peu autour de moi ce qui se passe, donc c'est un peu dommage. Je vois très peu le paysage, mais au moins je navigue au sec et assez confortablement. Mais je vois vraiment très très peu de choses avec mes liens à ce bateau en fait.
Un mot sur votre état aussi psychologique. On est à mi-parcours, mi-course. On vous sent très positif, très enthousiaste. On entendait aussi dans les journaux tout à l'heure votre plaisir et tout. Est-ce qu'il y a des moments malgré tout jusqu'ici où vous avez eu peur, Alan Roura?
Il y a eu des moments un peu de doute. Là, les dernières deux semaines ont été vraiment très difficiles en termes de météo. Et on se demande si on va tenir en fait pendant des semaines et des semaines comme ça, parce que c'est pas humain ce qu'on a vécu. On tient, mine de rien, le corps humain est vachement bien fait et on tient. Alors la peur, j'ai un bateau qui est assez réconfortant, donc voilà, il m'a pas encore fait vraiment peur. Si j'ai eu une grosse pointe de vitesse là où j'ai dépassé les 40 nœuds de vitesse, où là je me suis vraiment senti tout petit. Mais sinon non, ça va jusqu'à là. Là, ça va. Je m'étais vraiment bien préparé pour ce tour du monde, donc là, c'est voilà. Mentalement, ça se passe bien.
Les vagues, vous disiez, c'est très difficile ces conditions, c'est pas humain. Pour qu'on se rende compte, nous néophytes du côté de Lausanne, c'est des vagues à combien de mètres de haut?
Les vagues là, les plus grosses, elles doivent faire peut-être 8 mètres. Vous imaginez dans l'océan Indien, les vagues sont croisées, donc vous allez avoir une vague qui vient de face et une vague très étrange, très forte, qui casse, et qui sont casse-bateau. Là, cette nuit, je me suis fait coucher par une déferlante. Très bien pas, on la voit pas arriver, et on entend juste le bateau se faire rouler dedans, et donc, faut serrer un peu les fesses. Mais les conditions sont difficiles, ouais.
Des vagues croisées à hauteur de 8 mètres, et plus de 30 nœuds encore devant aujourd'hui. Merci beaucoup, Alan Roura. Bonne suite surtout à vous, devant des globes. À mi-course, hein, vous êtes 19e. On croise les doigts pour vous. Bonne suite à vous. Et bonne fête.
Merci.
En solo.
Merci, bonne journée, bonne fête.
À bientôt.
RTS Première, la matinale.
Tout autre chose maintenant, l'avenir des Syriens exilés à travers le monde. Beaucoup ont fui le régime ces dernières années, maintenant que Bachar al-Assad est tombé, que l'Union européenne annonce qu'elle va rouvrir son ambassade à Damas, par exemple. Eh bien, la pression est forte, en particulier sur les artistes et les intellectuels exilés à travers le monde pour rentrer en Syrie et participer à sa reconstruction, Sophie Islan.
Oui, des artistes qui, en raison de leur soutien à la révolution syrienne avortée en 2011, ont dû fuir le régime Assad et qui reçoivent aujourd'hui de multiples appels au retour pour redonner naissance à une vie culturelle et faire rempart à l'islamisme radical. Meyar Al-Roumi est cinéaste indépendant exilé à Paris.
Les amis disent sur les réseaux sociaux « Revenez, revenez, le pays a besoin de vous ». Revenez pour construire, et c'est vrai qu'il y a une conscience globale de la part des artistes sur l'importance de renourrir la société civile pour qu'elle s'éloigne un petit peu de mouvances islamistes, sachant que c'est quand même une société qui est issue d'une civilisation musulmane, mais que c'est pas une société qui peut aller vers un islam radical. Et c'est là où le rôle de l'intellectuel, en fait, c'est là le rôle de l'art, de dire occuper les jeunes par un festival qu'on organise de théâtre, de cinéma ou une exposition, c'est beaucoup plus intéressant que de les laisser dans la rue ou peut-être aller aux mosquées écouter les imams.
Aujourd'hui, tout est ouvert, me disait une commissaire d'exposition réfugiée en France, convaincue qu'il y a maintenant urgence à occuper le terrain pour que la société syrienne s'approprie ce qu'elle qualifie déjà déjà de révolution. Pour elle et beaucoup d'autres, le rôle du milieu artistique et intellectuel syrien est aujourd'hui crucial pour établir le dialogue entre les différents groupes et surtout rétablir la confiance dans la société civile.
Sophie, même si on assiste à une certaine effervescence, on imagine que ce n'est pas si simple de se mettre au service de son peuple du jour au lendemain.
Bah surtout qu'il existe une grande incertitude sur la marge de manœuvre de ces intellectuels une fois sur place. Delawer Omar est artiste peintre et militant kurde. Il était recherché par la police d'État syrienne et s'est réfugié dans le canton de Vaud, dans la commune de Bey.
Actuellement, la situation n'est pas stable parce qu'il y a juste un mouvement qui dirige, qui gouverne. Et on espère qu'il y aura une coalition qui va se mettre en place pour organiser des votations. Tant qu'il n'y aura pas des votations libres, des élections libres, je pense que les gens vont pas oser rentrer. Du coup, on va attendre un peu, je pense, pour voir la suite, comment ça va se dérouler. Mais je pense que le peuple syrien, ils ont plus peur. Et quand un peuple n'a plus peur, il aura plus de moyens à s'exprimer. Et ça, que ce soit à travers de l'art, à travers de la télé, à travers des réseaux sociaux. Même à Damas, les gens, ils commencent à parler, à dire ce qu'ils veulent.
On sent l'espoir mêlé à une certaine appréhension.
Une appréhension liée aussi au statut de réfugié, le risque pour tous ses opposants au régime s'ils partent maintenant tout de suite en Syrie, c'est de ne pas pouvoir revenir dans leur pays d'accueil. Meyar Al-Roumi.
C'est vrai que ces personnes-là, des artistes, des comédiens, on a besoin d'eux sur place, ils veulent bien retourner. Après, reste à savoir comment, parce qu'ils sont dans les pays étrangers, ils ont atterri ici avec le statut de réfugié politique. Et s'ils retournent en Syrie, ils perdent ce statut. Ce sont des personnes qui sont arrivées, ça fait 14 ans, et ils ont besoin d'être soutenus pour pouvoir aller en Syrie dans des bonnes conditions et pouvoir à la fois participer dans la reconstruction du pays sur le plan intellectuel et en même temps pouvoir quand même revenir en Europe parce que ils ont mené une vie, et je sais pas, en 10 jours, qu'ils vont tout couper du jour au lendemain.
Et vous savez qu'actuellement, la situation reste très confuse. Comme plusieurs pays européens, la Suisse a pour l'instant suspendu les procédures d'asile en cours. Elle précise toutefois que les nouvelles demandes d'asile sont toujours possibles et qu'il n'y aura pas pour l'instant de renvoi forcé en Syrie.
Merci pour ces explications, Sophie Islin. 7h27 dans cette matinale. Si vous avez manqué cette info maintenant, cruciale en cette période de fête qui arrive, Davy Baybazin, lui, l'a fixée dans son radar. Voici Des jours à Davy.
Dans les épisodes précédents.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et elle avait raison maman, parce que bientôt on ne saura même pas si on va tomber sur du vrai chocolat. Ou son remplaçant, le chocolat sans chocolat.
Attendez, mais c'est de la merde.
Bon, c'est pas si mal.
Des jours et des vies.
Non mais attendez, avant de critiquer, il faut quand même savoir que ça part d'un bon sentiment. Hein. La biochimiste munichoise Sarah Marquardt s'est dit il y a quelques années qu'il était peut-être temps de trouver une alternative au cacao, car plus de la moitié de sa production mondiale vient de deux pays africains, la Côte d'Ivoire et le Ghana, et que ces deux pays sont confrontés à des phénomènes météo de plus en plus extrêmes à cause du changement climatique, que ce soit la sécheresse ou des pluies torrentielles, qui font que les rendements des cacaoyers sont en baisse et que les prix, eux, ont plus que triplé. Sarah Marquardt et son frère Max se sont donc mis à chercher un substitut au cacao, partant du constat que l'arôme du chocolat se crée pendant la fermentation des fèves. Ils ont donc essayé de fermenter et de torréfier, avec leur équipe de scientifiques, plus d'une centaine d'ingrédients alternatifs, du noyau d'abricot au noyau d'olive, en passant par les pelures de pommes de terre. Et finalement, c'est avec de l'avoine et des graines de tournesol que le résultat s'est avéré le plus concluant.
Est-ce du chocolat français ou suisse ?
Allemand, me semble-t-il.
Ah bon ? Mais c'est effectivement à Munich qu'est né ce chocolat sans cacao appelé le Choviva, après 7 ou 800 tentatives quand même, et dont l'objectif, rassurez-vous, n'est pas de remplacer nos bonnes vieilles tablettes helvétiques, non, plutôt les friandises, les glaces, les céréales ou les barres chocolatées.
Et puis ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi.
Ah oui, ah c'est très bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse. Il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Alors, je sais pas si c'est bon, hein, mais en tout cas, le Choviva, c'est un chocolat qui consomme moins d'eau et qui émet moins de CO2.
Si jamais un jour tu es dans le pétrin, mange ça.
C'est un nouveau médicament ?
C'est un bonbon au chocolat.
Ou plutôt,
C'est une bombe de choc. Baouh !
Waouh, j'ai de la chance.
Qui faut-il culbuter ici pour avoir une tasse de thé et des biscuits au chocolat ?
Aujourd'hui, le temps sera nuageux et généralement sec avec des éclaircies par moment. Quelques bandes de brouillard ce matin sur le plateau avec un sommet à 500 mètres. Côté température, il fait actuellement entre 0 et 4 degrés. Ça va grimper entre 6 à 10 cet après-midi. Il fera très doux en montagne.
L'heure avec RTS Première.
Il est 7h30. L'heure de faire un point sur l'info avec Adrien Krause.
Dernière ligne droite pour le budget 2025 de la Confédération. Les deux chambres sont toujours divisées, notamment sur l'ampleur des coupes dans l'aide au développement. Les détails seront réglés en conférence de conciliation cet après-midi. Et bilan toujours incertain à Mayotte ce matin. Il pourrait y avoir des milliers de morts après le passage du cyclone Chido le week-end dernier. Emmanuel Macron, lui, se rendra sur l'archipel français demain. Un processus politique inclusif en Syrie. Appel signé de l'ONU cette nuit. Le Conseil de sécurité qui demande par ailleurs l'arrêt de l'interférence des pays voisins dans la région. Nous pourrions bien voter non pas une mais quatre fois sur le nouveau paquet d'accords bilatéraux avec l'Union européenne. Révélation hier de nos collègues de SRF alors que les négociations avec Bruxelles sont à bout touchant. Eux se retournent contre la Confédération, les parents de l'homme tué d'un coup de couteau à Morges en 2020. Selon nos informations, ils demandent 200 000 francs de dommages et intérêts au ministère public de la Confédération pour ne pas avoir pu prévenir ce meurtre. Follabert à La Chaux-de-Fonds, c'est terminé. Le groupe allemand actif dans la micromécanique a confirmé hier fermer son site dans la cité horlogère. 70 emplois seront supprimés. Le syndicat Unia et les employés dénoncent le procédé. Patience encore avant de voir la Terre pour les deux astronautes américains coincés depuis juin dernier dans la Station Spatiale Internationale. Leur retour vient encore d'être reporté pour raisons techniques. Initialement parti pour une mission de 8 jours seulement. Ils ne reviendront pas avant la fin mars, ou plus tôt. Et puis en hockey sur glace, c'est une certitude. Une équipe suisse disputera la finale de la Ligue des Champions. Un honneur qui reviendra au vainqueur de la demi-finale entre Genève Servette et les Zurich Lions. Tous deux qualifiés hier après leur succès en quart de finale.
7h32, Pietro, notre invité ce matin a 18 ans. Elle représente une génération Z pleine d'espoir.
Bonjour Apolline Imbleau.
Bonjour.
On va casser plusieurs idées reçues sur notre jeunesse avec vous ce matin. Vous êtes une jeune développeuse, lauréate 2024 du prix Margaret Junior qui récompense les jeunes filles qui innovent, qui ont l'esprit d'entreprendre, qui veulent changer le monde. Margaret, le prénom d'une mathématicienne américaine, Margaret Hamilton, qui a conçu le système embarqué du programme spatial Apollo 11. Sans elle, l'homme n'aurait pas marché sur la Lune. Votre credo, l'éco-anxiété n'est pas une fatalité. Votre idée, une application éco qui lie santé mentale et écologie, on en parlera. L'éco-anxiété, le mal du siècle pour votre génération, celle née après l'an 2000, les chiffres sont inquiétants. Trois quarts des jeunes de 16 à 25 ans jugent le futur effrayant et ont le sentiment d'avoir été abandonnés face aux enjeux climatiques. La moitié d'entre eux considèrent l'humanité comme condamnée et se sentent apeurés, tristes, anxieux, en colère. C'est ce que révélait une étude internationale parue il y a 3 ans. L'éco-anxiété, comment est-ce que vous la définiriez-vous ?
Pour moi, l'éco-anxiété, c'est vraiment cette espèce de mal-être constant qu'on n'ose pas vraiment s'avouer en fait, au quotidien. Et je pense, en fait, je suis assez persuadée que ça touche vraiment tout le monde. On peut être dans le déni, etc., mais c'est quand même quelque chose d'assez constant. Et surtout avec le fait que les médias relaient tous les jours en fait, des news par rapport à l'évolution du réchauffement climatique. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, l'éco-anxiété, et ça touche surtout les jeunes, comme vous l'avez dit.
Vous avez été vous-même éco-anxieuse par le passé, et vous l'êtes peut-être encore un peu aujourd'hui.
Ah oui, totalement. Moi, je pense que je le suis encore toujours, et c'est pour ça aussi que j'essaie d'amener pas des solutions, mais disons des espèces de bouées pour avancer avec, essayer de naviguer avec, et surtout transformer cette éco-anxiété en quelque chose de positif, entre guillemets, puisque ça peut nous inciter à agir.
Comment est-ce qu'elle s'est manifestée chez vous, cette éco-anxiété ?
Bah, c'est surtout le fait d'y penser régulièrement, faire des activités et de se dire, je profite de la vie, mais au final, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Est-ce qu'on ne va pas tout droit vers la catastrophe ? Cette espèce de côté alarmant en fait au quotidien. Et puis je vois que je suis pas la seule aussi. Enfin, mes amis, mon entourage, en fait, on est tous un peu concernés par ça, mais on ose plus ou moins se l'avouer, quoi.
C'est vraiment un problème de santé mentale, une forme de pathologie.
Non, pour moi, c'est pas une pathologie à proprement parler. D'ailleurs, c'est pas désigné comme tel. Hein. Aujourd'hui, c'est pas reconnu comme une pathologie. Mais c'est plutôt quelque chose qui peut nous peser au quotidien. Même si c'est pas maladif, en fait, on peut tous en souffrir. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions, comme on peut ressortir du stress, etc. Quoi.
Et vous avez là vraiment l'impression que c'est propre à votre génération ?
Pas propre exclusivement, parce que je pense qu'aujourd'hui, même les générations plus anciennes, elles en souffrent également, enfin, puisque elles y sont de plus en plus sensibilisées. Mais les jeunes générations, je pense qu'elles se sentent un peu, pas coupables, mais disons qu'elles ressentent ce problème-là un peu plus intensément, puisque en fait, on sait que ça va être notre futur, ça nous fait un peu peur, je pense. Mmh.
Je rappelais ce chiffre, hein, 3/4 des jeunes de votre génération jugent le futur effrayant, cette étude internationale qui rappelait aussi que 4 jeunes sur 10 hésitent à avoir des enfants au vu de la marche du monde. C'est votre cas aussi ?
Je ne sais pas si c'est proprement lié à ça, mais oui, clairement, ça joue. C'est vraiment une discussion que j'ai régulièrement, pareil, avec mon entourage. Et on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire vivre des enfants dans ce contexte-là ? Je pense que ça va jouer. Et puis, avec le problème de natalité qui vient pour les pays développés aussi, c'est quand même un angle à prendre en compte, je pense.
Et ce n'est pas uniquement lié au climat. Les guerres, ça pèse aussi sur le moral.
Oui, clairement. Enfin, le contexte, de manière générale, est carrément anxiogène, en fait. Et puis, c'est juste que le climat, ça pèse, on va dire, sur la durée. Et c'est vraiment un problème de taille. Donc, y a une espèce de fatalisme, quoi. On se dit, comment est-ce qu'on va remédier à ça? Et voilà.
Cette angoisse, qu'est-ce qu'elle induit chez des jeunes de votre génération? C'est un manque de motivation, l'impression que oui, ce fatalisme, on ne peut rien faire?
Oui, je pense, d'une certaine manière. Et puis, même pour notre futur, même professionnel, trouver du sens dans ce qu'on fait, se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de contribuer à une société qui ne reflète pas qui je suis, mes valeurs, ce que j'ai envie d'apporter au monde. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des alternatives, vivre des vies loin des villes, par exemple, ce genre de choses, dans un monde où on est de plus en plus connectés les uns sur les autres. Je pense que ça va être vraiment une problématique qui va continuer à s'accentuer, quoi.
Ouais, de plus en plus connectés, cette jeunesse. Mais cette déprime, précisément, est-ce qu'elle vient pas aussi d'une forme de d'individualisme, des jeunes qui sont seuls, qui se sentent seuls face à leurs écrans, donc aussi un peu démunis? Quand on est comme ça dans cette bulle numérique, on voit pas forcément comment agir ensemble.
Bah, je pense que le numérique, en fait, faut le... Comment dire ? Il a clairement un impact sur nos relations sociales et il faut essayer de l'amener vers quelque chose qui peut nous aider justement à entretenir nos liens et à former des communautés, regrouper des gens. Et je vois que ça peut être le cas avec les réseaux sociaux, tout comme ça peut nous amener à une forme d'isolement. En fait, ça dépend vraiment de notre manière de l'utiliser. Mais oui, clairement, le fait d'être tous les jours accablé de posts, de gens qu'on ne connaît pas forcément, il y a cette forme d'isolement qui se renforce. Et c'est pour ça que l'utilisation du média numérique, pour moi, me semble aussi pertinent, dans le sens où il peut rapprocher les gens des autres.
Est-ce qu'il y a aussi de la colère ? Lorsqu'on est éco-anxieux, de la colère envers les générations plus âgées qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su léguer une planète en bonne santé à leurs enfants?
Je pense que ça dépend des gens. Je me sens pas particulièrement en colère, plutôt en état de, pas de choc, mais il y a quelque chose où on se dit, de toute manière, à quoi ça sert d'être en colère, parce que c'est fait, enfin, on peut pas revenir sur le passé. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est plutôt comment ça va évoluer. Je pense qu'il y a une forme de rancœur, effectivement, surtout contre les gens qui ont été au courant depuis le début et qui n'ont rien fait, en fait. Parce qu'au final, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les gens sont au courant et beaucoup de gens ne font pas en sorte que ça change. Maintenant, les sentiments négatifs, voilà, comme je disais, il faut essayer de s'en servir pour que ça nous propulse à faire quelque chose d'autre.
En tout cas, pour vous, pas question de rester les bras croisés face à ce constat. Vous avez voulu développer une application justement pour lutter contre cette éco-anxiété. Quel a été le déclic, le point de départ ?
Je pense que j'étais dans un environnement qui essayait de me pousser à créer des choses, à être innovante. Et c'est un peu venu comme ça, naturellement. Après, aujourd'hui, il reste beaucoup à faire et franchement, je me considère pas comme une pionnière de quoi que ce soit, mais c'est plus que j'avais envie d'agir et de me dire, on n'a qu'une vie, désolé, ça sonne vraiment très cliché, mais on n'a qu'un seul passage sur Terre, autant essayer de le faire, de faire en sorte qu'il soit positif pour tout le monde, quoi. Ouais,
en voilà, tout cas, cette idée, elle a été récompensée avec le prix Margaret Junior. Cette application, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'objectif?
L'objectif de l'appli, donc Echo, c'est vraiment de mettre en lien les jeunes avec les associations qui existent déjà pour, comme je disais, renforcer ce sentiment de communauté, en fait, avec des jeunes qui se sentent isolés mais qui sont déjà un peu sensibilisés au réchauffement climatique pour faire en sorte qu'ils puissent s'engager assez facilement. Donc voilà, l'application, elle est encore en cours de développement, d'idées, etc. Mais le but, vraiment, ça serait de mettre en lien les jeunes avec des personnes qui sont déjà vraiment activistes dans le milieu de l'écologie.
Mmh. Echo, E-C-H entre parenthèses O. Pourquoi cette parenthèse?
Echo, donc il y a Echo
écologie.
Écologie,
ouais.
C'est ça. Et l'écho, donc la résonance, en fait. Le fait que nos actions, n'importe quelle action, même la plus petite, à l'échelle individuelle, elle peut avoir une résonance sur le reste d'entre nous.
Et l'idée, c'est presque de profiter, au fond, de cette éco-anxiété, d'en faire le moteur d'un changement pour un climat, enfin, d'un changement contre le réchauffement climatique.
Oui, bah, je pense que c'est ça, vraiment le postulat. Et puis, ça me semblait logique, en fait, parce que l'émotion négative en soi n'est pas particulièrement positive, logique, n'est pas forcément utile en soi. Mais si on arrive à prendre du recul par rapport à la situation et de l'utiliser pour nous amener à faire autre chose, changer le monde qui ne nous convient pas, en fait, pour moi, ça devient positif.
Une application ressource avec des choses très concrètes, hein. Par exemple, la méditation.
Oui, alors comme je disais, c'est toujours en cours parce que je cherche en fait justement des méthodes qui peuvent vraiment permettre de à la fois calmer notre stress, notre angoisse au quotidien, d'abord ne pas être arrivé en colère, on va dire, trop en colère, mais surtout le fait de pouvoir s'engager assez facilement ensuite, quoi. C'est en deux étapes, pardon. C'est vraiment première étape, on prend du recul, on se calme et ensuite on agit.
Et quels sont les retours que vous avez eus de la part des jeunes de votre génération sur cette idée, cette application?
Honnêtement, les gens autour de moi trouvent que c'était une bonne idée et que c'était une réponse adaptée, en fait.
Ouais.
Et j'étais surprise au début parce que je me disais, est-ce que vraiment l'éco-anxiété, est-ce que c'est vraiment un sujet? Et puis au final, quand je vois les retours qu'on me fait, pas que de jeunes, des gens des générations bien plus anciennes qui commencent à être aussi sensibilisés ou même le suivent depuis très longtemps, c'est pas qu'une question de génération, je vois qu'en fait, il y a vraiment un besoin. Et du coup, le fait de propulser des initiatives comme ça, pour moi, ça en dit beaucoup, en fait, sur l'état de notre génération actuelle, de notre société actuelle, et qui a besoin justement de ces initiatives-là.
Oui, mais ça reste une application du virtuel en ligne. Là, on ne va pas casser le cliché d'une génération, la vôtre, qui est ultra connectée.
Je pense pas qu'on puisse refaire non plus. On peut pas changer les codes à 300%. Au contraire, il faut partir de ces codes-là, de ce qui marche en fait. Et aujourd'hui, on est hyper connecté, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut pas utiliser cette hyper connexion pour en faire quelque chose de bien finalement, au lieu de tomber dans des travers avec les réseaux sociaux, avec tout ce genre de choses? Utiliser ces plateformes-là pour amener vers du positif.
Ce prix, hein, Margaret Junior, que vous avez décroché, récompense les jeunes filles qui innovent, qui ont l'esprit d'entreprendre. D'ailleurs, les candidatures pour le prix 2025 sont ouvertes actuellement. Pourquoi c'est important de récompenser les jeunes filles plus que les jeunes hommes?
Parce que les jeunes filles sont tout simplement sous-représentées dans le milieu de la tech et puis de l'innovation générale, alors qu'il y a vraiment cette envie, je pense, des jeunes filles de mon âge d'entreprendre et de plus en plus, en fait. Aujourd'hui, on est de plus en plus amené vers ça. Et donc, oui, ce genre de prix, ça permet de donner confiance, en fait, à des jeunes filles comme moi, par exemple, et qu'on puisse leur dire, oui, vos idées, elles ont de l'importance, elles vont être écoutées. En fait, il suffit d'amener notre capacité d'action, en fait, et elle pourra être récompensée. Donc ça, je trouve ça quelque chose d'hyper positif, en fait, pour nous.
Ouais. Des femmes qui ne sont que 22% dans le domaine des nouvelles technologies aujourd'hui, un cinquième seulement. C'est quoi les freins, d'après vous?
Je pense qu'il y a l'accès à l'éducation, le modèle sociétal, le fait que on n'est pas forcément amené à aller dans des filières un peu plus techniques, technologiques, parce que voilà, ça a été comme ça depuis des années. On n'a pas été vu comme pas capable de le faire ou disons pas encouragé à le faire. On s'est dit qu'il y avait sûrement d'autres domaines qui étaient plus intéressants pour nous, alors que c'est pas vrai. En fait, il y a plein de jeunes filles qui s'intéressent à la tech aujourd'hui. J'en suis témoin. Donc voilà. Et je pense voilà que c'est un des freins principaux, le fait qu'on n'est pas amené naturellement à se poser la question de est-ce qu'on a envie de faire ça. Ouais. Mais justement, en créant des prix, en médiatisant les jeunes filles qui font ça, bah ça amène en fait à faire penser aux jeunes filles, vous êtes capable de le faire aussi.
Ouais. On dit parfois que les jeunes hommes de votre génération sont un peu plus réac que les hommes plus âgés. Vous ressentez ça?
Pas particulièrement, non. Je vais être honnête. Je pense que ça dépend vraiment du profil. Niveau réac, à mon avis, les générations plus âgées sont pas mal aussi.
Sont pas mal aussi. Pionnière, vous êtes une pionnière du numérique, comme Margaret Hamilton, qui a donc donné à son nom à ce prix que vous avez reçu. Sans elle, je le rappelle, l'homme n'aurait pas marché sur la Lune. Elle vous inspire, c'est une figure comme ça, féminine de la tech, qui vous donne envie d'avancer.
Oui, clairement. Enfin, on dit des rôles modèles, en fait, des femmes qui ont été les premières dans leur domaine à se dire bah, « je suis capable de le faire, je vais pas écouter ce qu'on me dit et puis je vais y aller ». C'est clair que c'est hyper inspirant et clairement, on a besoin de ces modèles-là aujourd'hui. Et même à l'école, par exemple, le fait qu'à chaque fois, ça me fait halluciner, qu'on nous parle pas de ce genre de personnes, alors qu'elles ont vraiment inventé des choses incroyables. Il y a plein d'exemples et on a vraiment besoin d'en entendre plus parler.
Apolline Humblot, la future Margaret Hamilton, peut-être que vous aussi à votre tour vous inspirez d'autres jeunes filles. Vous avez donc créé cette application pour lutter contre l'éco-anxiété et vous êtes notre invitée ce matin.
Effectivement, mettre en lien les jeunes pour les inciter à agir et ça calme l'angoisse liée au réchauffement climatique. La revue de presse qui arrive, Valérie Drouin, on parle des salaires dans la santé pour commencer.
Les caisses maladies veulent baisser le salaire des psychologues psychothérapeutes à partir de l'année prochaine. Lit-on ce matin dans le Tagesanzeiger, le Bund et la Basler Zeitung. Des salaires plus bas, soulignent les journaux, alors que la Suisse a un urgent besoin de relève dans le secteur. Depuis 2022, les psychothérapies auprès de psychologues sont remboursées par l'assurance de base si elles sont prescrites d'abord par un médecin. Ça coûte forcément plus cher à la dite assurance et c'est pour ça donc que les caisses veulent des baisses de tarifs dans la plupart des cantons. Glaris est le premier à avoir accepté. Lit-on, le tarif horaire y passe de 155 francs à 140 francs de l'heure. La Fédération Suisse des Psychologues dénonce le procédé, met en garde aussi. Ça pourrait avoir pour conséquence que de nombreux psychothérapeutes envisagent de ne traiter à nouveau que les patients disposant d'une assurance complémentaire et ceux qui payent eux-mêmes leur traitement. Dans 24 heures, ce sont les assistantes médicales qui montent au créneau, des professionnels de la santé indispensables au bon fonctionnement d'un cabinet médical qui ne sont pas de simples demoiselles de réception, comme on disait autrefois, un métier mal reconnu, mal payé, mais pourtant complexe, une formation spécifique, on le rappelle, il y a un CFC d'assistante médicale, gestion administrative d'un cabinet, mais aussi perfusion, prise de sang, pose d'attel. Pourtant, la profession n'est pas officiellement considérée comme une profession de santé. Un statut au rabais qui implique un manque de protection de leur savoir-faire médical. Aujourd'hui, la pénurie est telle que les médecins engagent des personnes qui n'ont aucun bagage en la matière, les assistants diplômés parle d'un nivellement par le bas et la Société vaudoise de médecine appuie les craintes de la profession. Sa présidente explique, avant les médecins avaient le choix entre plusieurs candidates, aujourd'hui ce sont les assistantes qui choisissent entre les médecins.
Un cadeau de Noël maintenant.
Le cadeau d'Albert Rösti à Susanne Villet, directrice de la SSR, lit-on dans le Sangaler Tagblatt, l'Argauer et la Luzerner Zeitung. Le Conseil fédéral a finalement décidé d'accorder la compensation du renchérissement à la SSR pour ces deux prochaines années. Ça représente plusieurs dizaines de millions de francs, écrivent les journaux. Cette année, pour comparaison, c'était 69 millions. On ne sait pas encore combien ça représentera en 2025 et 2026. De quoi atténuer le paquet d'économies prévu par la SSR d'ici 2029. Susanne Villet avait parlé d'une somme de 270 millions. Ce montant, estime les quotidiens, est probablement surestimé de plus de 100 millions.
De l'argent encore, mais pour la transition écologique cette fois-ci.
sujet.
C'est l'idée de la commune vaudoise de Gland, relayée par Le Courrier, le revenu de transition écologique. Trois personnes choisies sur candidature recevront jusqu'à 70 000 francs par année. Elles pourront aussi profiter d'un accompagnement personnalisé pour soutenir leur projet d'entreprise. Alors il y a des conditions, bien sûr. L'activité d'abord doit être en lien avec la durabilité, évidemment. L'accompagnement, explique l'économiste à l'origine du projet, Sophie Swatton, ça peut par exemple être des formations. À terme, le but est d'arriver à s'intégrer dans un collectif, une coopérative, car souvent les gens sont seuls avec leur tête, explique-t-elle. Tout est parti du constat que souvent les gens veulent œuvrer pour la transition écologique, souffrent d'un manque de soutien. Par exemple, un agriculteur qui veut se passer du glyphosate ne sait pas forcément comment s'y prendre ou par où commencer. Ce n'est pas, poursuit Sophie Swatton, un truc de bobo pour planter des tomates. Non, c'est un outil pour toutes les filières, construction, urbanisme, mobilité, cosmétique, par exemple. L'écologie, les écosystèmes, c'est aussi l'objet de l'éditorial de ce même courrier. Il revient sur la libération de l'activiste Paul Watson, berger des mers, un activisme musclé qui s'en prend notamment aux pêcheurs de baleines. Sa non-violence agressive, il s'en prend au matériel, hein, pas aux gens, peut déranger les tenants du laisser-faire, écrit l'édito. Mais sans cette radicalité, existerait-il encore des baleines, s'interroge l'éditorial. Sa libération, conclut-il, est une bonne nouvelle aussi parce qu'elle s'inscrit dans une évolution des rapports de nos sociétés au vivant. Tous ses soutiens ne sont pas véganes comme lui, mais ils admettent que certains excès doivent être quand même corrigés.
Depuis 10 jours, vous terminez votre revue de presse, Valérie, par un sujet. Esprit de Noël, ce matin, c'était un peu plus difficile.
Ah oui, pas de lutin, pas de sapin, pas de bûche, pas de crèche, pas de petit Jésus. J'ai cru que ma série allait être interrompue, mais finalement, le Bund de Berne est venu à ma rescousse. Ouf. L'interview d'un météorologue sur l'éventualité d'un Noël blanc, comme dans les contes, Noël blanc en plaine. Alors oui, il y a une chance petite. Le dernier Noël blanc à Berne, c'était quand même en 2014.
C'est 10 ans quand même.
Ah ouais.
Oui. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Apolline Imblot, vous êtes notre invitée ce matin. Vous avez développé une application pour lutter contre l'éco-anxiété. Vous avez décroché un prix pour ça. Que pensez-vous de cette initiative dans la commune de Gland? C'est une petite commune en Suisse romande où trois personnes choisies vont bénéficier jusqu'à 70 000 francs par année pour être accompagnées personnellement pour soutenir un projet d'entreprise lié à la durabilité. Est-ce que vous savez si ce genre d'idées existent déjà, sont réalisées en France?
Oui, ça se développe de plus en plus, en fait, les initiatives qui cherchent à récompenser, en fait, les projets à valeur écologique. Et je trouve ça hyper important parce qu'en fait, ça met en valeur des personnes qui ont un futur tout trouvé, du coup, avec cette transition. Et oui, ça existe de plus en plus, heureusement, et j'espère que ça va continuer à se développer.
Il faut casser les clichés aussi de se dire c'est un délire de bobos qui tout d'un coup veulent planter leur carré de tomates. Hein.
Je pense que c'est plus l'enjeu aujourd'hui, ouais. En tout cas en partie. Et puis il faut surtout essayer de se dire qu'il faut démocratiser la transition écologique et l'engagement écologique surtout, que ça soit pas réservé à une élite, parce que c'est clairement pas le propos, et il faut pas que ça tombe là-dedans, il faut pas que ça soit réservé à des élites, parce que ça nous concerne tous.
Ah, moi aussi sur Paul Watson, ce berger des mers libéré hier, activiste qui s'en prend pas aux gens mais au matériel, est-ce que à vos yeux ça doit passer par une agressivité matérielle? On pensait aussi aux activistes de XR par exemple qui bloquaient des routes ou des ponts. Est-ce que ça doit passer par là pour sensibiliser, pour faire avancer vers la lutte contre le réchauffement?
C'est hyper complexe comme question, parce que d'un côté on se dit que si on n'est pas entendu, il faut bien trouver des moyens de se faire entendre. Mais en même temps, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, que le fait de tomber dans l'activisme parfois agressif, entre guillemets, même si on a dit que c'était pas le cas, et encore une fois c'est pas le cas pour la grande majorité des activistes, d'un point de vue extérieur, des personnes qui sont pas du tout là-dedans peuvent se dire ah ouais, donc en fait ils sont comme ça, quoi.
Ouais, aux yeux de la population ça paraît agressif, ouais. Hein, même si aux yeux des activistes,
alors qu'au
ça
final
n'est pas...
c'est ça, c'est pas le but, et je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente qui fait que tout le monde puisse se comprendre, en fait.
Ouais. Apaiser un peu les relations. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin, Apolline Imblot, développeuse d'une application pour lutter contre l'éco-anxiété, application qui s'appelle Eco, E-C-O. H entre parenthèses, O. Voilà, bonne journée
c'est
à
ça.
Vous. Bonne suite.
Merci, vous aussi.
Nous sommes mercredi, jour de l'art en vrai, Anne Fournier. C'est le dernier art en vrai de 2024. Vous revenez ce matin sur la chronique Ctrl Z de vendredi dernier autour de l'intelligence artificielle. Mais pour vanter le théâtre ce matin.
Oui, c'est sans conteste la révolution du moment. L'intelligence artificielle met son grain de sel partout. La musique, le cinéma, les médias, une déferlante. Alors, la semaine dernière, j'ai donc écouté attentivement la chronique de notre spécialiste IA, Pascal Wassmer. Il parlait de ce programme conçu pour réaliser un scénario en entour de main. On écrit ce qu'on veut voir, par exemple un lama sur une piste de danse, on clique, la séquence image est créée, et puis cette phrase.
Comment faire la différence entre le vrai et le faux à l'heure des réseaux sociaux ? La vraie révolution n'est donc pas technologique, mais bien culturelle. Il va falloir apprendre à regarder les images différemment, voir n'est plus croire.
Là, l'étincelle, c'est bien écrit, bien lancé, ça a réveillé un thème de conclusion pour 2024. Et si, avec l'intelligence artificielle, il y avait une autre grande gagnante, la scène, là où se joue le « ici et maintenant, devant mes yeux, avec des corps ». Ça pourrait expliquer le succès de séries, films ou spectacles autour de cours de théâtre pour les jeunes, là où, pour reprendre les mots de mon collègue, « voir, c'est encore croire ». À vérifier.
La scène et son jeu qui font vibrer les jeunes. Vous avez des exemples, Anne?
Bah, cet automne, le thème a inspiré et occupé les petits comme les grands écrans. Il y a la série « Ceux qui rougissent », coproduite par Arte et la RTS, primée au festival Sérimania 2024 de Lille. On vit de l'intérieur un cours de théâtre autour de Shakespeare. Des ados sont livrés à un professeur remplaçant qui va tout bouleverser. Tous les prétextes sont bons pour jouer, à voir, pour y croire. Au cinéma aussi, deux films, Rue du Conservatoire de Valérie Donzelli ou Le Panache avec José Garcia. Chaque fois, c'est le théâtre avec des jeunes pour grandir. Et puis la semaine dernière, il y a eu eux, tout près d'ici, des étudiants.
C'est un mec qui a écrit, ok. Mais c'est l'histoire d'une femme qui choisit. Et qui choisit d'aimer contre tout et tous. Et qui s'en fout des autres. Et des conseils des autres, du réel, de la raison, des raisons, des trucs politiques et tout. Juste, elle est amoureuse du mec.
D'une presque connard.
Juste, elle l'aime.
Guichet fermé au théâtre L'Alambic de Martigny. Les élèves de l'école de théâtre ont piqué Bérénice à Racine pour leur spectacle Bérénice Making Of, mis en scène par Denis Maillefer, tout nouveau directeur du théâtre du Jura. Mmh. Eux se demandent pourquoi et comment, en 2024, on déclame encore ces alexandrins du XVIIe siècle. Et à la fin de l'envoi, ça touche, Bérénice leur a parlé, un big succès.
Et donc, selon vous, tout ça, ça a des chances d'assurer la réplique face à l'intelligence artificielle?
Bah, je sais, c'est une conviction très personnelle, pas très objective, un peu utopique. Mais si ça peut rassurer, elle a reçu le feu vert de la chronique Ctrl Z. Voir ou croire? Alors vous savez, la semaine dernière, il y a eu polémique lorsque la chanteuse américaine Mariah Carey a publié une vidéo où elle se met en scène pour remercier ses fans. Était-ce vraiment elle? Gros soupçon d'intelligence artificielle, tragédie sur les réseaux sociaux. Alors dans un monde fait d'illusions technologiques, le spectacle vivant, le théâtre, est peut-être un précieux espace de vérité, surtout pour les plus jeunes, là où voir, c'est croire, du moins en apparence.
Allons voir des vrais gens sur des vraies scènes, pour voilà. Y croire, merci beaucoup. Anne Fournier, Mathieu Hildebert, c'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit repas de Noël, en famille s'il vous plaît. Un bon moment de rhétorique, oui.
Le sujet est d'intérêt public. J'ai donc décidé de consacrer trois chroniques, aujourd'hui, demain et vendredi, sur les coulisses rhétoriques de ces fameux repas. Et on commence très très fort ce matin, avec une championne de la mauvaise foi, la loi de Godwin, aussi connue sous le nom d'une fausse expression latine, tenez-vous bien, la réductio ad Hitlerum. Cette loi stipule que plus une discussion ou un débat dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une référence ou une comparaison impliquant les nazis ou Hitler est grande. C'est une loi empirique, oui, non scientifique, mais le monde de la rhétorique en parlait déjà dans les années 50. L'objectif derrière cette loi, discréditer votre interlocuteur en l'affublant explicitement ou implicitement d'extrémisme.
Et donc cette loi de Godwin est vraiment utilisée dans les repas de fin d'année, les repas de fête ?
C'est beaucoup plus sournois qu'on ne le pense. Prenons un cas très concret. 24 au soir, vous entrez en débat avec votre beau-frère sur une problématique, par exemple l'orthographe chez les jeunes. Le débat s'envenime. Vous martelez qu'il faut vivre avec son temps, alors que votre beau-frère ne fait que répéter « non, c'était mieux avant ». Avant, les jeunes savaient écrire, avant, les jeunes savaient s'exprimer. Irrité par ce côté vieux jeu, et un tout petit peu aviné, il faut le dire, vous lâchez un maladroit Quand on voit ce que certains dictateurs ont fait avant, ton argument du 7ème mieux avant ne tient pas. Bingo, vous venez de poser un premier pied dans la loi de Godwin avec cette référence. Retenez alors qu'à Noël, plus un débat dur, plus vos chances de tomber dans les propos extrêmes sont grandes.
On va tester.
Alors, avec des pincettes, s'il vous plaît.
Mais rien que là, c'est du vécu. On se réjouit du numéro de demain. Merci,
Mathieu.
Salut
à demain, mon frère.
Allez, je manquerai pas.
À demain.
La matinale en tout temps sur l'application Play RTS. Infotrafic RTS avec Pure Audio.
La circulation est dense sur les principaux axes du réseau routier romand. Toutefois, aucune perturbation particulière n'est à signaler.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Aujourd'hui, le temps sera nuageux, généralement sec avec des éclaircies par moment. Des bancs de brouillard ce matin sur le plateau avec un sommet à 500 mètres. Les températures 0 à 4 degrés actuellement, 6 à 10 cet après-midi. Il fera aussi très doux en montagne. Le volet international de la matinale, c'est tout un monde qui arrive. Bonjour Eric Guevara.
Eh oui, bonjour Valérie. Alors j'ai quand même pris des notes sur les repas de Noël.
Dites-moi.
C'est pas très